ça ira. Les aristocrates, on les prendra.
Et on coupe le micro. Allô, on cesse les interférences et on commence à raisonner.
Polémisons calmement.
Bonsoir, vous êtes bien sur la clé des ondes 90.10 et c'est l'émission Achaïra, animée un jeudi sur deux par le cercle Jean Barruet de la Fédération anarchiste. Bonsoir tout le monde.
Oui, alors, bonsoir Flora.
François.
Sakine Arnaud, où je suis invitée gentiment. Bonsoir pour la Ligue des Droits de l'Homme.
Bonsoir Phil.
Oh, bonsoir Philo.
Bonsoir Alain. Donc ce soir c'est une émission un peu spéciale, parce que nous l'avons voulu ainsi. Donc il n'y aura pas d'éphéméride, mais simplement, bon, vous avez entendu, si vous êtes un peu déjà au courant, donc la présence de Sakine Arnaud ce soir autour des micros, par rapport donc... au procès qu'elle subit, par rapport à son engagement avec Philo à la marche pour lever le blocus de Gaza. Et on a choisi de commencer l'émission par un petit rappel d'une histoire brièvement résumée de la Palestine et des relations entre Palestine et Israël et les États du Moyen-Orient. Donc là, c'est François qui va nous faire ce petit topo. Et ensuite, eh bien, on engagera le récit donc, des marcheurs du Caire qui apporteront leur témoignage sur ce qui s'est passé, les problèmes d'organisation, les enjeux, et ainsi de suite. Voilà, donc François, si tu veux bien...
Voilà, donc c'est un bref aperçu, hein. J'ai sauté beaucoup d'étapes, sinon ça serait beaucoup trop long. Donc je commencerai simplement par dire que la Palestine était en 1890-1900, avant donc le siècle 19e, à la fin du 19e siècle, elle faisait partie de l'Empire ottoman. Elle comprenait 300 000 habitants environ, donc des Arabes, musulmans, chrétiens, juifs, toutes communautés mélangées. Il y avait à cette époque à peu près 5% de juifs. À partir des années 96-97, les persécutions en Europe de l'Est, très nombreuses, des pogroms, provoquent des exodes multiples de la communauté juive. D'abord infra-européenne, c'est-à-dire elles se déplacent en Europe en fuyant les exactions. Et ceci aboutit au congrès de Bâle. À la fondation du sionisme. Évidemment, il est étrange de commencer un aperçu de la Palestine par un petit peu d'histoire du sionisme, mais c'est obligatoire en la matière. Donc ce congrès de Bâle demande la création en Palestine d'un foyer garanti par le droit public. Au départ, c'est comme ça. Ensuite, en 1901, il y a la création du Fonds national juif, qui ensuite... favorisera et encouragera et organisera l'achat des terres palestiniennes tout au long des années 1900 à 1948, tout simplement. Ces acquisitions seront d'ailleurs, dès le début, définies comme inaliénables au peuple juif. Toute acquisition, donc, restant définitivement entre les mains du peuple juif. C'est comme ça que le Fonds national définit l'acquisition de terres. La célèbre formule « une terre sans peuple » pour un peuple sans terre date d'ailleurs de 1901. Elle a été prononcée par un certain Tsangville. Voilà. Cette formule, commence à introduire l'idée étrange qu'on acquiert des terres à personne, à un peuple inexistant, puisque c'est une terre sans peuple. Voilà. Ensuite, à partir de 1903, une vague d'immigration juive, toujours résultante de pogroms, arrive en Palestine. Et il y aura plusieurs vagues d'immigration, comme ça, successivement, jusqu'à la déclaration de l'État d'Israël. Et ensuite, après, bien sûr. Il est bon de signaler, d'ailleurs, à ce propos, que c'est le pogrom, un très, très, très grave pogrom qui s'appelle le pogrom de Kitchinev, qui produira cette immigration. En 1903 également, Herzl, le fondateur du sionisme, qui cherchait jusque-là à établir ce foyer national juif un peu partout, pas seulement en Palestine, prioritairement en Palestine, mais il a même essayé de négocier un établissement en Argentine, par exemple. Mais voilà. Donc il négociait avec tout le monde, il négociait avec le sultan, hein, donc qui était évidemment le chef de l'Empire ottoman, si je puis dire. Le sultan ne voyait pas d'un très bon œil la création d'un problème en Palestine, entre les Juifs et les autres communautés, donc il s'y refusait. Donc Herzl continue à frapper, il est allé voir Guillaume II, il est allé voir d'autres, un peu tout le monde diplomatique de l'Europe de cette époque, pour essayer d'obtenir cela. Jusqu'à aller frapper à la porte de Pleve, qui est le ministre de l'Intérieur russe du Tsar, hein, tout simplement. Et il le rencontre en août 1933. Ce même Pleve a organisé les pogroms antisémites de Kishinev trois mois auparavant. Ils discutent d'un accord ensemble. Les sionistes pèseraient de tout leur poids contre les socialistes révolutionnaires russes, qui eux-mêmes, comme vous le savez, sont largement influencés par des intellectuels juifs. En échange, la Russie des Tsars ferait pression sur les Turcs pour autoriser la colonisation en Palestine. Cette extravagance, comme le nomme l'article, un bout de l'article que je viens de lire, échoue. Voilà. C'est simplement pour citer les étranges alliances qui tentaient de se nouer à cette époque. Donc, voilà. À partir de 1910-1911, l'acquisition de terres auprès des effendi, des dignitaires civils de l'Empire ottoman, auprès des grands propriétaires absents, finissent par poser un problème social très important, puisque les métayers qui travaillaient au service des grands propriétaires absents se voient exclus de leurs terres ou de leur travail. Donc il y a une première révolte, 1910-1911, qui s'appelle la révolte d'Al-Fula, et elle est réprimée très très férocement par le sultan, donc qui éteint cette révolte-là. L'acquisition de terres se poursuit, l'immigration par vagues successives se poursuit également. Et on en arrive au moment de la guerre 14-18. À ce moment-là, évidemment, l'Empire ottoman s'engage aux côtés des Allemands et les alliés en face tentent, disons, de saper les bases de l'Empire ottoman en nouant des traités, des alliances avec les tribus arabes, les tribus wahhabites, des tribus qui donneront plus tard les hachémites, donc Hussein de Jordanie et un hachémite, les wahhabites et Ibn Saoud, et Faisal qui viendra plus tard Faisal d'Arabie. On se souvient un peu tous peut-être pour avoir vu de façon romancée l'épisode de l'épopée de Laurence d'Arabie, qui témoigne donc en gros de ces accords diplomatiques en grande partie secrets, qui en même temps fondent, donnent des espoirs de panarabisme à certains chefs des tribus, et qui en même temps vont provoquer le fait que quand on passe des accords et qu'on ne les respecte pas, on nourrit le ressentiment. Et effectivement, une partie du ressentiment arabe à l'égard de l'occupant britannique viendra plus tard de ces promesses non tenues, tout simplement. Voilà. Donc, comme on sait, l'Empire ottoman s'écroule. C'est ça. Et on arrive en 1917. À ce moment-là, il s'agit évidemment de se répartir les morceaux de l'Empire ottoman. Donc rien n'est vraiment décidé de façon définitive pendant à peu près 3 ans. Hein, entre 17 et 22, les plusieurs propositions, plusieurs fausses promesses sont avancées, et jusqu'en fait la déclaration Balfour, qui a lieu en 1917. Voilà, il est secrétaire au Foreign Office. Et il fait parvenir une lettre annonçant que le gouvernement de sa majesté envisage favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif. Ainsi, on peut dire qu'en l'espace de quelques années, cette terre de Palestine a été promise à peu près à tout le monde. Le shérif Hussein, le mouvement sioniste, et pour finir, l'Empire britannique. Parce qu'à partir de 1923, c'est ça, la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU, dont certains grands personnages ont dit qu'on pouvait l'appeler le machin, la SDN, donc elle a d'autres propositions à faire. Elle négocie plusieurs étapes ont lieu, on ne sait pas exactement quoi faire. Finalement, la Grande-Bretagne fait la demande d'un partage de la Palestine, elle recevrait la France recevant le sud Liban, la Grande-Bretagne bénéficierait du mandat sur la Palestine, la Transjordanie et l'Irak. Ce qu'elle finit par obtenir en 1923 par le traité de Lausanne. En même temps, se crée le Haut Comité arabe pour la Palestine devant évidemment l'évidence du morcellement total de la Palestine, la spoliation des terres, tout ça commence à faire beaucoup. Donc en face se crée le Haut Comité arabe pour la Palestine, qui va lui-même faire d'autres propositions plus tard. En 1929 a lieu, voilà, en 1929 éclate la première grande révolte arabe contre les Juifs. Elle est déclenchée par une raison futile, une modification de l'accès des Juifs au mur d'élémentation. Ça nous rappelle certaines choses. Mais elle traduit évidemment l'exaspération palestinienne. Les émeutes se propagent à toute la Palestine. Il y a 250 morts, 133 Juifs, 117 Arabes. Et ceux-ci sont tués par les Arabes sont tués par les Britanniques, pour la plupart. Il s'ensuit un livre blanc, c'est le premier livre blanc sur la Palestine, produit par les Britanniques, concocté par les Britanniques, qui met l'accent sur les méfaits de la colonisation. Mais dès 1931, ce livre blanc est enterré, tout simplement, comme d'autres le seront par la suite. En 1933, Hitler s'empare du pouvoir en Allemagne, comme vous le savez. Et là, évidemment, c'est l'antisémitisme officiel. Donc, d'autant plus de pression. Et il y a tout, évidemment, à ce moment-là, vous savez que toute la population juive d'Allemagne cherche à quitter le pays, enfin, en tout cas, une grande partie. Généralement, il y a une immigration qui se produit vers les USA, mais pas seulement. Alors, aux USA, l'idée d'un boycott contre le pouvoir d'Hitler, c'est une idée qui débute, hein, qui n'a pas un grand retentissement, mais elle est combattue à la fois par les organisations juives traditionnelles et par les sionistes, avec l'organisation sioniste mondiale au premier rang. Le boycott, saboté par le mouvement sioniste, n'inquiétera jamais le pouvoir nazi. Dès mai 1933, l'organisation sioniste mondiale négocie avec Hitler un accord de troc, qu'on appelle le Ha-Avara, liant l'immigration des juifs riches vers la Palestine en échange d'une opération commerciale allemande financée par leurs biens. Entre 1933 et 1939, 60% du capital investi en Palestine arrivera via l'accord passé avec Hitler. Je cite là ensuite un petit extrait d'Anna Arendt à ce sujet. Durant les premières années du nazisme, les sionistes ont interprété la prise du pouvoir de Hitler comme une défaite décisive de l'assimilationnisme. Les sionistes croyaient également que la dissimulation couplée à l'immigration vers la Palestine, pouvait représenter une solution acceptable réciproquement. Ils pensaient alors principalement aux jeunes et aux capitalistes. Les accords de Ha'avara permettaient ainsi à un immigrant de transférer son capital en Palestine. Résultat de cette situation, lorsque les juifs américains essayèrent d'organiser un boycott de produits allemands pendant les années 30, la Palestine fut le seul pays à être submergé de produits « made in Germany ». Étrange paradoxe. À partir des années 36-37, une guérilla palestinienne, sous l'égide de l'émir Al-Qassam, se déclenche, prend les armes, prend le maquis. Quelques milliers de personnes prennent le maquis et se réfugient sur les hauteurs et mener leur guérilla. Il y a également une grève générale de 6 mois, en 1936, en Palestine. La répression britannique s'ensuit, elle est très sévère, et elle s'accentue même en 1938-39, jusqu'à l'écrasement de la révolte. À ce moment-là, il y a quelques juifs qui sont intégrés dans les forces britanniques, alors même que dans les rangs sionistes, le sentiment anti-britannique est fort. Il y a également il y a une proposition de partage. Bon, tant pis peut-être. Si, c'est ça, voilà. En 1939, il y a le second livre blanc que les Britanniques produisent. Ce dernier prévoit une sévère limitation de l'immigration juive. Et elle promet l'autonomie palestinienne au sein d'un État unitaire dans un délai de 10 ans. Ce deuxième point étant subordonné à l'accord préalable des sionistes. Évidemment, les Palestiniens rejettent cet accord, rejettent cette proposition, puisqu'il est soumis à l'approbation des sionistes. Et les sionistes eux-mêmes rejettent cet accord parce que la limitation de l'immigration ne leur convient pas du tout. Voilà, donc c'est tout pour le deuxième livre blanc, c'est fini. Il n'y aura plus de livre blanc. On arrive maintenant à la période de la Deuxième Guerre mondiale. Donc pendant la Seconde Guerre mondiale, un petit corps expéditionnaire juif va s'intégrer aux troupes alliées pour mener la guerre en Europe. Ce petit corps va plus tard permettre le fondement de Tsahal, de l'armée israélienne. Il y aura et l'apprentissage, et l'acquisition des méthodes et l'armement qui va ensuite servir en Palestine après la guerre. D'un autre côté, une partie seulement des Arabes palestiniens verrait d'un bon œil la défaite, évidemment, du colon britannique et penche pour une victoire de l'Allemagne. C'est en quoi il se trompait complètement, évidemment. Voilà. Jusqu'en 1946,